Bonjour tout le monde. Donc là maintenant, on va rester du coup ensemble pendant une heure pour un échange autour des violences policières. Pour ceux et celles qui me connaissent pas, donc je m'appelle Bethel, je fais partie du collectif Tout va bien, et donc c'est moi qui vais animer la discussion aujourd'hui. Je vais tout d'abord en fait laisser les personnes autour de moi se présenter et présenter leur collectif ou l'endroit où elles travaillent. Je sais pas qui veut commencer. Je te laisse la parole.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Modou, je suis le porte-parole de la Voix des sans-papiers de Bruxelles, qui est un collectif qui se trouve en Molenbeek, qui existe depuis 2014, qui lutte pour les droits de l'humain, de l'être humain, qui lutte pour la dignité, pour lutte pour la justice sociale, pour lutte pour l'égalité.
Merci.
Bonjour à tous et toutes. Moi, je m'appelle Aude Mellemester et je représente la Ligue des droits humains aujourd'hui. Est-ce que je dois présenter plus la Ligue de manière générale ou...
Oui, tu peux. Oui,
okay. Oui. Bon, la Ligue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation qui existe depuis plus de 100 ans et qui lutte et qui vigile sur les questions, enfin sur le respect des droits fondamentaux en Belgique uniquement. Et pour cela, on a une série de types d'actions, des actions en justice, de la sensibilisation et évidemment aussi un gros travail de production d'expertise sur les questions donc de justice de manière générale, sur les questions prison, sur les questions des droits des étrangers et évidemment sur les questions de droit face à la police. Voilà.
Merci.
Alors. Donc moi c'est Jihad, je fais partie des JOC, donc les jeunes organisés et combatifs, les JOC de Bruxelles. Et donc en gros les JOC c'est un mouvement de jeunes qui se rassemble pour organiser des projets, principalement pour lutter contre des injustices, des inégalités qu'on peut vivre. Et on a pour principe de partir sur notre propre réalité.
Et du coup, moi, c'est Yams. Je suis un des membres fondateurs d'un collectif qui s'appelle La Nouvelle Voix Anticoloniale. Et ça fait environ... ça doit faire 5 ans aujourd'hui. Ça doit faire environ 5 ans que moi, Jihad et d'autres qui ne sont pas avec nous sur scène en ce moment, on travaille sur le sujet des violences policières et la corrélation qu'on peut faire entre violences policières, racisme et... dans les dernières années de nos travaux, on a essayé de créer des ponts avec violence policière et ce qui se passe pour nos camarades sans papier et les réalités qu'on partage ou pas.
Merci beaucoup. Alors, comment ça va se passer? Là, on va commencer par la projection d'une petite vidéo pour entrer dans le sujet. Après, on aura un échange ici avec les intervenants par rapport à ce qu'on vient de voir. Et après, en fait, on va très vite vous laisser la parole si vous avez des questions ou des commentaires. Voilà, du coup, on va commencer par une mini projection. Ça va très vite, je crois qu'elle dure une ou deux minutes, la vidéo. On va peut-être se reculer.
One day you're going to be stopped by the police. When that happens...
Always make sure they can see your hands.
Okay.
Never move suddenly.
And always be extra respectful, even if they're not. Your job is to get home safe. Understand?
And hey, if you ever feel like you're in trouble, just reach out for the police. They're there to help.
Alors, juste rapidement, pour si jamais il y a des personnes qui ne parlent pas anglais, donc on voit donc des des parents, on va supposer qu'ils sont des parents noirs qui disent donc à leur enfant noir comment réagir face à la police. Donc faire attention, être toujours respectueux, ne pas être violent, etc. Et puis en fait, on voit donc un monsieur blanc qui dit à son fils, on suppose, que si jamais lui il a un problème, par contre, il peut appeler la police, ils sont là pour aider. Donc voilà. Bah, du coup, ma première question, quand on voit ce genre de vidéo, qu'est-ce que ça vous inspire?
Je peux commencer? Ok. En gros, c'est une vidéo que j'avais déjà vue il y a environ 2 ans, qui avait fait surface sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vu que c'est le mien. Et en fait, on voit un peu, c'est une vidéo qui cristallise un peu ce qui se passe aux États-Unis et la condition des Noirs face à la police aux États-Unis, où on voit vraiment des cas extrêmes de deux poids, deux mesures, où en fait les Noirs, quand ils sont confrontés à la police, ils sont potentiellement en danger de mort. Et bon, c'est des témoignages qui sont très poignants. Il y a des vidéos. Bon, depuis que quand on travaille sur les violences policières et qu'on fait des ponts avec ce qui se passe aux États-Unis, ces vidéos sont tout le temps dans notre feed et c'est des vidéos qui sont dures à regarder. Et moi perso, je conseille pas, parce que je pense que déjà, la réalité des violences policières aux États-Unis, elle est assez trash pour... dire, rien que de lire des articles là-dessus, c'est déjà assez trash. Donc, en plus de voir des vidéos, c'est vraiment hardcore. Moi, c'est le genre de truc que je ne conseille pas aux gens de regarder, sauf si les gens ne sont pas convaincus, en fait. Après, dans un deuxième temps, il faut qu'on se rende compte d'une chose, c'est que les États-Unis, c'est une réalité qui est différente de la nôtre. Mais ce qui se passe aux États-Unis, où tout est filmé, où on est au courant des agissements de la police, c'est une réalité qu'il n'y a pas ici en Belgique, en fait. Où en Belgique, par exemple, quand quelqu'un meurt, il y a un silence médiatique assourdissant. Et au-delà du silence médiatique, il n'y a pas de collectif comme aux États-Unis qui prennent cette mission, en fait, de faire connaître les affaires, ou très rarement, selon les milieux affinitaires qu'on peut avoir avec la victime. Ben, typiquement, par exemple, en France, les gens qui font connaître les affaires de violences policières, c'est les familles de victimes. C'est-à-dire que potentiellement, quand il y a un mort en France, c'est sa famille qui va prendre en charge la lutte pour la vérité et la justice de ce cas-là. Ce qui ne se passe pas forcément en Belgique. Et c'est un peu le gros point faible de la lutte contre les violences policières en Belgique aujourd'hui, c'est que si un cas fait outrage, comme le cas de la petite Maouda, est-ce que tout le monde est familier avec cette affaire ? Une fille réfugiée lors d'une course-poursuite, a été tuée par la police, en fait. Dans cette affaire-là, ce qui a été frappant, c'est le fait que, premièrement, l'appareil policier, ils se sont couverts les uns les autres comme jamais, dans le sens où, dans les premières parties de l'affaire, ils disaient que la cause de la mort, c'était pas la balle, c'était le fait qu'ils disaient que les réfugiés utilisaient la petite comme bouclier humain, en fait, pour se protéger des policiers. Bon, bref, ça a été démontré que c'est faux. Et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, non seulement les gens sont pas au courant de cette affaire-là, mais en plus, un truc aussi choquant, où il y a quelques années, quand Semira Adamo a été tuée, qui a fait l'outrage national et qui a permis la régularisation de plusieurs sans-papiers, aujourd'hui, la majeure partie des gens s'en foutent, en fait. C'est une petite fille de quel âge ? 4 ans ? 2 ans. C'est une petite fille de 2 ans qui a été tuée par les flics. Et on a eu quoi ? Il y a eu 2 articles et il y a eu une pseudo-enquête qui est en cours, qui est encore en cours en ce moment. Et bon, on n'en parle pas plus que ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai à dire. Tu vois, c'est le ressenti que j'ai par rapport à cette vidéo et ce que ça ramène aussi dans la réalité qu'on a en Belgique et qui est dichotomique, en fait, qui est vraiment disproportionnée.
Je pense qu'on va revenir justement sur les spécificités de la Belgique après. Aude, j'avais peut-être une question pour toi. Est-ce que on a une définition claire de qu'est-ce que c'est que qu'une ou enfin qu'est-ce que c'est que les violences policières.
Alors non, il n'y a pas de définition arrêtée de ce que va être une violence policière et ce qui n'en sera pas. Et en fait, en soi, ce n'est pas vraiment un problème, à mon sens. Bon, il y a évidemment ce que la loi en matière d'usage de la force par la police va permettre, parce qu'effectivement, la police, dans notre société, elle est, c'est le seul organe qui est détenteur d'une force qui est dite légitime. Et donc, pour que cette force légitime puisse s'exercer et puisse être considérée et rester légitime, elle doit respecter une certaine proportionnalité, elle doit être utilisée en dernier recours et elle doit évidemment aussi être opportune par rapport à l'objectif que la police poursuit au moment où elle va utiliser la force. Donc si on sort de ce cadre-là, effectivement, là on rentre dans une forme d'abus et de violences policières aux yeux de la loi. Maintenant, évidemment que l'opportunité et la proportionnalité, ben, ça va dépendre du contexte et de comment déterminer cela. Évidemment, ça va être problématique. Enfin, tout ça, malgré tout, il y a une marge d'interprétation qui reste importante. Après, il y a aussi ce que des décisions de justice vont à un moment donné estimer comme étant de l'abus ou non de la violence policière. Ben ça, malheureusement, il y en a vraiment pas beaucoup, mais il y en a quand même, notamment jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est aussi une façon de définir et de délimiter ce qui va être considéré comme de la violence policière. Et puis évidemment, un autre point de vue qui est extrêmement important pour pouvoir comprendre la violence, ben c'est évidemment ce que les personnes concernées, les victimes, vont ressentir, et enfin le ressenti des personnes. Le fait d'être harcelé par la police, ou simplement que la police refuse d'acter une plainte, ou un contrôle d'identité, c'est pas forcément avec des coups que la violence, l'abus peut être ressenti par une personne. Donc ça doit être considéré aussi quand on appréhende la question des violences policières. C'est pas seulement des violences physiques, il y a clairement aussi cette question des personnes concernées qui doit être prise en compte. Donc voilà.
Jihad, ouais.
Oui, ben donc je voulais rebondir et appuyer donc effectivement le fait que nous on pense qu'il faut élargir clairement le champ d'interprétation des violences policières. Donc c'est ce que tu viens de dire, élargir avec tout ce qui est illégitime en fait, et pas juste des coups de matraque, mais effectivement ça peut être voilà des en parole, ça peut être du rabaissement, du tutoiement. Rien que le tutoiement, c'est quelque chose que les policiers utilisent en général, et déjà ça c'est pas normal. Après, ça peut aller voilà, des menaces, des regards de travers, etc., du harcèlement. Et nous, quelque chose qu'on trouvait important aussi d'appuyer, c'est la question en fait, de la subjectivité en fait, des critères qui définissent une violence policière. La nécessité d'utiliser la violence, la proportionnalité de cette violence, c'est des choses qui sont subjectives et qui dépendent en fait, de l'appréhension des corps dans le chef du policier. Et donc, ce sera différent d'une personne à une autre.
Oui,
en fait, moi, je voulais juste rajouter un peu par rapport à la vidéo. Apparemment, c'est une vidéo qui a été tournée aux États-Unis. Pour moi, ces conseils, c'est pour les Américains. C'est pour un lieu bien défini. C'est pour aussi des personnes bien définies. Parce qu'un sans-papier qui est en Europe, en particulier en Belgique, si vous lui donnez ces conseils, je ne pense pas qu'il pourra l'appliquer. Parce que du moment qu'il l'applique, c'est comme s'il signait son arrêt de mort. Parce qu'on sait bien, on ne peut pas parler de cette violence policière sans parler de la police avec les sans-papiers. Mais c'est toute une histoire. C'est un vécu, c'est toujours tout le temps que les sans-papiers sont pourchassés par la police. Du moment que tu circules, dès que tu vois une voiture de police, là, tu fais automatiquement attention. Donc, automatiquement, tu vis dans une stress totale. Et comme l'a dit mon ami, on ne peut pas définir exactement c'est quoi cette violence policière. Parce que ça commence déjà par des petits trucs verbaux. Et par la suite, ça se termine par des matraques. Donc, je pense que c'est bien important aussi qu'on essaie aussi de définir, même si on n'arrive pas à le faire. Parce que on n'a pas d'outils nécessaires pour pouvoir se défendre, on n'a pas d'outils nécessaires aussi pour pouvoir aussi mener une lutte aussi contre cette violence qui est là, qui existe, et qu'on en parle peu. On peut porter plainte, ça aboutit nulle part, et on continue à recevoir des menaces jusqu'à pour nous intimider, pour rester dans le silence. Donc je pense qu'il y a un gros problème qui est là, et il est temps que les gens commencent à s'éveiller encore une fois de plus pour mettre des outils pour pouvoir lutter contre cette violence.
Justement, quand tu parles d'outils, qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place pour aider justement les personnes sans papier qui sont victimes de violences policières?
Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Pour le moment, on peut parler déjà de l'accompagnement. Parce que parfois, il y a des choses qui se passent, mais on se sent seul dans son coin. Déjà, pour avoir un avocat, on vous dit, pour avoir un bon avocat, il faut payer. Et la personne qu'on interdit de travailler, comment il va trouver de l'argent pour payer un bon avocat? L'avocat, il vous dit quoi? Ok, j'ai déposé la plainte, on attend une réponse. À la police, on vous dit que c'est le comité P qui s'en occupe. Et là, vous attendez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a aucun résultat. Et une fois que vous commettez, je veux dire, une petite faute, vous êtes arrêté par la police. On dit, ah oui, c'est une personne qui avait porté plainte contre la police. Et là, ça retombe encore sur vous. Et là, vous recevez une double infraction, si je peux le dire ainsi. Donc, pour moi, c'est déjà la société qui doit se mettre debout pour dire non. Il y a assez. Parce qu'il y a des personnes qui sont mortes par une certaine négligence, si je peux le dire. Il y a des personnes qui subissent des tortures tout le temps. Parce que c'est passé dans les centres fermés, on n'en parle pas. Mais c'est une violence qui est plus dure que dure qu'on parle. Parce que c'est une violence qu'on ne voit pas. C'est une violence qui est à l'égard de toute personne qui n'est pas dans le centre. Parce que nous, on a des amis qui ont vécu ça. On a des amis qui ont été maltraités. Mais du moment qu'on en parle, les gens pensent que ça a été inventé. Mais non. Récemment, on a eu un ami qui a été malade. Il a demandé à être reçu à l'hôpital. Mais ils l'ont refusé. Qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? Expulsé avec sa maladie. Et une maladie, je peux dire, qui a été causée par la police parce que la police a tiré des balles en caoutchouc sur lui, sur une manifestation. Donc, je pense que déjà, ceux qui défendent soi-disant la justice sociale, c'est eux qui doivent se mettre debout d'abord et être soutenus aussi par la société, par les citoyens qui veulent que la donne change aussi. Parce que juste pour dire que oui, nous voulons que les choses changent. Et sans bouger, pour moi, ça ne sert à rien. Il est temps qu'on arrête de parler et il est temps d'agir.
Merci. Je voulais revenir, donc on a parlé de Maoudad, Simira Adamou. Comment ça se fait que justement, du coup, en Belgique, on sait donc qu'il y a des violences policières, on sait qu'il y a des personnes qui sont assassinées par la police, mais qu'on n'ait pas de mouvement qui se soulève comme il y a en France, qui est porté par les familles, etc. Quelle est la spécificité du coup ici en Belgique?
Bon, du coup, en fait, pour parler de la spécificité en Belgique, il faut comprendre les autres spécificités. Aux États-Unis, ils ont une culture politique et une façon de s'organiser en communauté qui fait que, par exemple, dans les communautés noires, quand il y en a un qui se fait assassiner par les flics, tout le monde à peu près le connaît. Et c'est un truc qu'on a, j'ai l'impression, je sais pas, mais en Europe occidentale, où chacun a sa petite maison, on connaît le voisin, il est mort, bon bah... Il est mort, tu vois, c'est comme ça. Ça, c'est, je pense que c'est la première partie. C'est la façon dont la société, elle est organisée. Dans un deuxième temps, il y a aussi, c'est toujours en fait la culture politique états-unienne qui fait que dès qu'ils ont une affaire, eux, ils la médiatisent. Et non seulement ils la médiatisent, ils utilisent les médias traditionnels, mais au-delà de ça, ils ont les réseaux sociaux et ils ont des réseaux sociaux immenses avec les Black Lives Matter, avec ils créent des ponts entre les pays en fait tellement que. Faut se rendre compte que des vidéos du fin fond de Baltimore, et Baltimore c'est ghetto, c'est un peu comme, je sais pas, jambes, ou équivalent, je sais pas, pour ceux qui connaissent, mais ces vidéos-là sont arrivées jusque chez nous, jusqu'à la capitale, jusqu'à Bruxelles, moi c'est Bruxelles, du coup c'est la capitale de l'Europe, mais faut se rendre compte que c'est pas évident en fait de faire ça, pour qu'une vidéo resurface, et ils ont réussi à créer des réseaux genre tentaculaires et immenses, qui leur permettent de parler ces sujets-là et de pousser les, je sais pas comment on dit ça en français, mais les policymakers en français. Anyway, les gens qui font les politiques, les législateurs, ouais, bref. Ils réussissent à faire pression sur leurs policymakers pour avoir des actions en fait. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un truc en Belgique, et c'est une réalité en fait, c'est qu'il y a un manque de mobilisation des parts, de notre part en fait, dans l'associatif. C'est qu'on va potentiellement pas souvent aller vers les gens pour mobiliser. On se dit qu'on est en petit groupe, que ça suffit, que 10 personnes pour travailler, c'est plus facile pour faire des réunions, c'est plus facile pour prendre des décisions. Mais ça veut dire qu'au moment où il faut mobiliser et où il faut vraiment faire le travail juridique d'accompagnement, on n'est que 10 en fait. Et peut-être on a une responsabilité, mais je pense qu'aussi en tant que citoyen, il faut que les Belges, et pas que les Belges aussi, qu'on se réveille, nous tous, et qu'on prenne aussi notre part de responsabilité. Parce que je pense qu'il faut qu'on se rende compte aussi que dans le futur, ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement dingue. Et que dans le futur, nos gosses, pour ceux qui... genre cette petite-là, elle va nous demander, mais les gars, qu'est-ce que vous avez fait en fait pendant qu'il fallait taffer en fait. Et nous, la seule réponse qu'on aura pour la grande part, c'est bon, bah, j'étais occupé, je devais faire autre chose. Et je pense que c'est une erreur et qu'il faut, à petite échelle, à la limite, partager, si vous savez lâcher 1 € dans les associations qu'il faut, soutenir comme vous le pouvez, mais au moins que vous pouvez répondre, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà pour moi.
Oui.
Un truc important aussi qu'on veut appuyer, c'est la question de le caractère exceptionnel qui est donné en fait aux violences policières dont on entend parler ici en Belgique. Donc on a cité déjà Maouda et Semira Adamou. On peut citer pour Bruxelles Souleymane Jamili et le cas de Mohad. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que ça n'a rien d'exceptionnel, même si effectivement il y a moins de morts par la police en Belgique qu'en France ou aux États-Unis. C'est une réalité. Et encore une fois, il ne faut pas s'arrêter aux morts. Mohad s'est fait passer à tabac par 5 flics. C'est pas rien, et même tout ce qui constitue une violence selon nous doit être pris en compte, et c'est consubstantiel en fait à la réalité des gens, surtout des quartiers populaires et des sans-papiers. C'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose avec lequel ils vivent tous les jours, à chaque moment, dès qu'ils sortent de chez eux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer.
Merci Aude. Ouais. Oui, je voulais juste ajouter que par rapport à ce que disait Maudou, effectivement, il y a aussi le problème dans la définition de la violence policière, juste revenir un peu là-dessus, toute la violence aussi dans le processus de plainte pour violence policière. Donc ça, c'est de la violence dans la violence. Donc, et qui, on a le sentiment que tout le système autour, les mécanismes avec des gros guillemets qui permettent de porter plainte quand on a été victime de violences policières, sont faits pour décourager les personnes de le faire. Et que là-dedans, si déjà individuellement on n'a pas le sentiment de retrouver justice, s'organiser, c'est alors qu'en plus on est potentiellement vachement traumatisé. Moi, des personnes victimes de violences policières, j'en entends toutes les semaines, des personnes qui ont peur de la police par la suite, etc. C'est une vraie réalité. Effectivement, s'organiser alors qu'on est traumatisé et qu'on n'obtient pas justice et qu'on sait qu'on n'obtiendra pas justice, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est essentiel. Nous, à la Ligue, on continue à vouloir essayer de soutenir et encourager les personnes à déposer plainte, à utiliser les canaux qui existent aujourd'hui, que ce soit le comité P ou de faire appel à la justice, parce qu'il faut. Mais voilà, on sait aussi que c'est insuffisant. Et sur cette mise en lumière du phénomène, nous, on observe la même chose. La Ligue avait mis en place en 2013 un observatoire des violences policières, qui est un petit peu dans une phase morte pour l'instant, mais qui va être redéployée à l'avenir. Mais voilà, l'objectif, c'était quand même ça. C'était d'une part un espace d'information sur les droits à déposer plainte, de comment le faire, ce à quoi il faut être attentif. Et puis, évidemment, surtout, mettre en lumière le phénomène de façon à ce qu'il soit pris en compte dans les policy makers, les politiques. Parce qu'il y a aussi un des gros problèmes sur ce sujet-là, c'est le déni, en fait, ou en tout cas un prétendu déni de la part de la classe politique, mais aussi des policiers eux-mêmes et de leurs syndicats, qui persistent à dire que tant qu'il n'y a pas de plainte, en fait, il n'y a pas de problème. Et comme il n'y a presque pas de plainte, du coup, il n'y a presque pas vraiment de problème. Et on a le comité P qui est là pour être utilisé, sortir la carte. On a un contrôle, la police des polices est là, mais qui minimise profondément l'ampleur du phénomène et qui ne laisse pas du tout apparaître cette question des violences banales quotidiennes que subissent des personnes voilà, au quotidien.
Juste encore un tout petit mot, parce que du coup, ça vient d'être cité, c'est la banalisation en fait. C'est les jeunes qu'on côtoie, par exemple à Molenbeek, pour eux, c'est entre guillemets normal de recevoir des baffes, des regards de travers, etc. Parce qu'ils ont toujours vécu ça en fait. Donc, et ils ne voient pas, ils n'ont pas conscience de ce qui pourrait être entrepris pour changer ça, puisque leurs grands frères ont subi ça, eux ils subissent ça, leur petit frère va subir ça. Et donc il y a vraiment une banalisation de la part des premiers concernés et aussi une non-conscience des parents qui ne se rendent pas compte en fait, que la police peut taper leur gosse pour rien vu qu'il y a la criminalisation de ces jeunes qui est faite sans arrêt. Pour les parents, si un flic tape leur gosse, ben, c'est qu'il l'a mérité, c'est qu'il a fait quelque chose, c'est qu'il les a cherchés ou qu'il a fait quelque chose.
Bon, moi, je voulais juste rajouter un peu. Bon, faut juste savoir un peu que cette violence policière dont on parle, ça date pas d'aujourd'hui. Parce que déjà, ça a été depuis avant la colonisation, et ça continue et ça se modernise, ça s'adapte par rapport à la situation. Et en plus, ici, en Belgique, on peut dire que la police est très bien protégée. Parce que, une fois, étant sans papier, vous n'avez pas le droit de porter plainte. Parce qu'une fois que vous mettez vos pieds à la police peut vous arrêter. Donc, il n'y a rien qui vous encourage à le faire. De deux, vous portez plainte. La police, si vous habitez seul, une fois que la police connaît là où vous habitez, il peut faire une descente et vous arrêter aussi en même temps. Et en fin de compte, il n'y a rien qui motive ces personnes à aller porter plainte. Et en plus, on le dit souvent, cette lutte qui est là, on parle de convergence de lutte, mais on ne le sent pas. Parce qu'il y a pas mal d'associations qui sont là, qui luttent pour cette justice sociale, qui luttent pour changer les choses. Mais malheureusement, chacun tire de son côté. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra essayer de réfléchir pour mettre tout le monde sur la table et voir quels sont les problèmes qui sont là et quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour au moins faire un grand coup, faire ce rapport de force que nous attendons depuis longtemps. Parce que je pense que tant qu'il n'y a pas un rapport de force, on aura beau lutter, on aura beau crier, on aura beau descendre dans les rues, mais on n'aura pas de résultats concrets. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin pour le moment. On a trop souffert et il est temps quand même que les choses commencent à changer pour qu'on puisse nous donner encore d'autres motivations pour continuer à vivre dignement.
Merci. Avant de vous laisser la parole, je voulais juste demander, donc les JOC ont une campagne qui s'appelle Stop Répression. Est-ce que c'est possible d'en dire deux mots, d'expliquer ce que c'est, quel est l'objectif?
Oui, donc en gros, les JOC, on s'organise par thématique de travail, entre guillemets, et par localisation, donc par quartier ou université par exemple. Et on travaille notamment sur les violences policières et la répression d'État plus globalement. Depuis 2011, je pense. Et donc, en gros, c'est une campagne contre la répression d'État dans sa globalité qui a été lancée parce que les militants de Bruxelles s'étaient fait violenter par la police lors d'une manifestation. Et donc, ils ont eu envie d'agir contre ça. Et donc, ils ont commencé un travail sur les violences policières. Et donc là, ils ont fait vraiment un travail d'analyse et ils se sont bien rendu compte que ça touche pas du tout que les militants, la répression. Et donc, ils ont un peu défini, fait ressortir différents types de répression qui existent. Et du coup, depuis, y a un travail qui est effectué pour agir sur tel ou tel type de répression. Et du coup, on utilise différents moyens d'action. De type, par exemple, des rassemblements, des manifestations, des interpellations de conseils communaux, etc. Et plus spécifiquement, l'accompagnement des victimes de violences policières qui viennent nous contacter ou que nous, on arrive à joindre.
et on les accompagne donc dans leur lutte pour faire valoir leurs droits. Et donc nous on agit plus sur le volet politique vu que c'est sur ça qu'on peut agir le plus. Le volet médiatique et le volet juridique, c'est plus des relais qu'on peut faire. On peut leur expliquer les différentes démarches, procédures qu'ils peuvent lancer au niveau juridique et leur donner l'un ou l'autre contact d'avocats ou de collectifs d'avocats à contacter. Mais sinon, il n'y a pas de juriste parmi nous. Donc nous, c'est plus le volet politique, mais qui vient en soutien. En fait, l'action juridique, médiatique et politique se renforce l'une l'autre. C'est en agissant sur ces trois volets qu'on peut espérer à obtenir une moindre chose dans une histoire de violence policière.
Mais au-delà de ça, ça c'était la première partie de notre travail, mais là on essaie de travailler sur un projet de marque de soutien aux victimes de violences policières. L'idée c'est quoi en fait? C'est qu'on se rendait compte qu'il y a deux choses qui empêchent les gens de porter plainte. C'est le fait que ça sert à rien, de un, et que si je le fais, de toute manière, ça va me coûter cher. Le but de la marque de soutien, en fait, c'est quoi? C'est qu'on a lancé une première série de t-shirts. Et l'idée, c'est qu'il coûte à 15 euros. Et il y a. C'est quoi le rapport? Il y a 50% de la thune qu'on se fait sur les t-shirts, des bénéfices qu'on se fait sur les t-shirts, qui vont dans une caisse de soutien, une sorte d'assurance pour les victimes de violences policières, et qui, dans laquelle ils peuvent puiser le jour où ils veulent porter plainte et faire suivre une démarche. Dans un deuxième temps, on essaye aussi. Il y a un projet qui est. C'est un projet en fait assez secret qu'on essaye de mettre en place. Et on cherche des collaborateurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, on cherche des journalistes potentiellement et des juristes, des sociologues et des gens qui ont à la limite qui ont les moyens de faire un travail scientifique. Des journalistes, il en faut avec des cartes presse au cas où. Et l'idée, si vous êtes intéressé, on tient un stand là-bas dans le village des possibles ou je ne sais pas quoi. On est en face des gilets jaunes et vous pouvez venir prendre contact si vous... Si, même si vous êtes intéressé de militer avec nous, il y a un groupe Stop Répression dans à peu près chaque ville de Wallonie. Et si pas, il y a un groupe JOC que vous pouvez contacter. Et si vous voulez plus d'infos, on est là-bas.
Super, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Bon, nous, de notre côté, ce qu'on peut faire, étant donné que du moment qu'on n'arrive même pas à porter plainte, tout juste ce qu'on peut faire, c'est dénoncer. On essaie de le faire comme on peut, via les réseaux sociaux, via un journal qui s'appelle JSP, le journal des sans-papiers. Là, au moins, on a une voix, là, au moins, où on peut dire les choses. Parce que les médias qui sont là, malheureusement, ne nous soutiennent pas dans cette lutte. Donc, c'est pour cela qu'on demande encore une nouvelle fois que cette convergence de lutte, qu'on en parle, qu'on essaie de le concrétiser. Parce que, franchement, il y a une utilité et on est dans ce besoin.
Merci. Eh ben, du coup, si quelqu'un a une question ou un commentaire ou autre... En fait, avec la lumière, je ne vois pas... Ah, oui. Oui. Merci.
Bonjour. Merci à vous. Alors, j'ai plusieurs questions, remarques. Je ne sais pas trop comment dire ça. Je voulais revenir sur une chose dont l'un des membres de JOC a dit concernant comment dire le regroupement en fait soit sociétal ou comment en fait face aux violences policières un groupe peut se constituer pour les dénoncer. Et en fait tu as fait un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis et tu as allez plus ou moins brièvement dit que aux États-Unis voilà ça pouvait être plus simple parce que tout le monde se connaît. J'extrapole un peu et je pense que au niveau historique, en fait, il y a une grosse différence entre comment l'histoire des Afro-Américains s'est construite et comment l'immigration. Enfin, moi, je suis française en France, en fait, et comment la diaspora est complètement différente. Et quand on prend un mouvement comme Black Lives Matter, bon bah voilà, il y a le mot black. Même si je pense que la communauté hispanique ou asiatique est aussi touchée par les violences policières aux États-Unis, l'histoire des Noirs aux États-Unis est ce qu'elle est. Et je pense que du coup, le mouvement politique est beaucoup plus, non pas solide, mais constitué en fait depuis un bout de temps. Et ça peut peut-être expliquer des choses. Vous avez aussi fait un parallèle avec la notion de la famille, en fait, qui porte la parole, et une sorte de comparatif avec ce qui se passe en France. Et en fait, moi, le constat que je fais en tant que Française, et ce qui m'effare beaucoup, c'est que, enfin, il y a des collectifs qui existent. Celui que j'ai en tête, c'est, je pense, Urgence, Notre Police Assassine. Il y en a plein d'autres. Mais si on prend un cas qui est très connu, qui est celui de Adama Traoré, moi, dernièrement, j'ai été plus qu'effarée. Déjà, en fait, de voir que oui, la famille met de l'énergie, du temps, et je suis pas certaine, et c'est pas ce que vous avez dit, hein, mais que ce soit justement la famille de porter ça quand on perd quelqu'un. Et avec toute la machine en fait qui a été mise en place et avec tout ce qui a été médiatisé, ils ont quand même réussi à mettre en prison deux de ses frères, si je ne me trompe pas. Le premier rapport en fait après le jugement qui a été émis, c'est que enfin les policiers n'ont pas été condamnés. Donc moi quand j'ai vu ça, j'étais assez consternée. Et je me dis mais qu'est-ce qu'on fait en fait, puisque même quand on s'est médiatisé à mort que la famille est là, qu'ils arrivent à mettre en prison des frères de la personne qui est décédée, la justice arrive en fait arrive toujours à faire avoir gain de cause à la police. Du coup, voilà, ça c'est une remarque comme ça que je mets en suspens. Je ne suis pas activiste dans les mouvements de lutte contre les violences policières en France. Donc je ne sais pas, mais voilà, juste de mon point de vue d'observatrice et de femme noire vivant en France, je suis plus abattue et désespérée en fait. Ça c'était une chose. Et il y a la notion de rapport de force qui a été dite et qui est importante. J'ai envie de faire des parallèles avec la conscientisation en fait de la société. Et moi, je dis souvent qu'une partie de la société française blanche en fait s'est rendue compte de ce qu'étaient les violences policières quand le mouvement Nuit Debout a vu le jour. S'en est suivi avec les gilets jaunes. Et ce qui me faisait sourire jaune, c'est que bon, ben à Nuit Debout, les personnes étaient volontairement là en train de manifester. Ici, en fait, on vit, on respire et on se fait contrôler et violenter par la police. Donc le gap est quand même assez grand. Et je pense que, enfin, une question, c'est au niveau de la prise de conscience générale. C'est-à-dire que voilà, enfin, ça a été cité au niveau des instances juridiques et de l'accompagnement. Mais j'ai pas de solution. Mais comment on fait juste au niveau de l'éducation nationale, comment on fait au niveau des recrutements policiers, parce que enfin, c'est juste, il y a une hypocrisie qui est très existante. Et encore une fois, même si je vis en Belgique depuis 3 ans, je suis surtout française, l'État français est très raciste et on le voit en fait dans toutes les instances. Et je me perds un peu, mais
je pense qu'on va laisser on va laisser répondre.
Merci en fait pour les précisions que tu donnes. C'est vrai que tu sais dans les j'ai essayé de faire ça en vitesse et j'ai pas été exhaustif et c'est une évidence en fait. Et merci de te faire le rapport. Et en fait ce que tu as dit c'est très juste, c'est que oui en France c'est les familles qui portent la lutte, mais c'est pas normal en fait. C'est ça que je disais en fait. C'est à partir de quand nous en tant que c'est nos concitoyens. Et aujourd'hui c'est eux, mais peut-être que demain c'est nous. À partir de quand on prend notre responsabilité? Et encore pire, à partir de quand nous, en tant que collectif, on prend le mandat qu'on a décidé de prendre. En fait, on a décidé de lutter contre les violences policières. Et à partir de quand, je me jette des pierres, mais bon, on n'est pas tout seul. Et à partir de quand, tous les collectifs qui luttent contre les violences policières, qui luttent contre les discriminations, prendront leurs responsabilités et mèneront la lutte, en fait. Après, dans un deuxième temps, je pense que c'est une bonne chose que c'est à ça. C'est Assa, son prénom, ça.
Assa Traoré.
Que Assa a pris les rênes parce qu'au moins, elle est sûre de où va aller le mouvement. Ce qui est dommageable, en fait, c'est le fait que les répercussions soient si violentes. Et c'est aussi, en fait, c'est aussi un parallèle qu'on peut faire avec les luttes des sans-papiers. C'est que, sur le papier, il y a marqué on lutte contre toutes les répressions et aussi contre la répression des sans-papiers. Mais matériellement, comme tu as dit, il n'y a ils sont seuls en fait. Et c'est aussi une responsabilité que nous on a et que nous on doit prendre de faire ces ponts, de faire ces plateformes et au-delà de faire une plateforme, de vraiment faire front face à ces violences-là. Et je pense même que c'est salvateur parce que si on arrive à faire en sorte que les violences contre les sans-papiers, et les sans-papiers, on sait qu'en Belgique, c'est le plus bas de la société. Si on arrive à faire en sorte que ces personnes-là soient protégées contre les violences policières, potentiellement, on peut faire en sorte que tout le reste soit beaucoup plus facile. Il y a cela. Il y avait une deuxième partie à la question.
Sur la prise de conscience.
Sur la prise de conscience, en fait, moi, personnellement, je sais que la formation des flics, elle ne va rien changer. Je le sais par expérience, en fait, que le fait de leur donner des workshops sur... sur les différentes cultures, sur ce genre de sujet-là, ça ne va rien changer. C'est une réalité, en fait. C'est parce que le système policier est fait comme ça. Quand tu es un flic et quand tu... on l'a vu avec Maouda, il a tué une petite de 2 ans. Tout l'appareil policier s'est mis ensemble pour le protéger. Et donc, on peut être sûr, vous pouvez être sûr, je peux vous le garantir, que sur les questions de racisme, même les questions de sexisme, on le voit aussi quand des dames veulent porter plainte pour viol, déjà si elles sont écoutées, et si elles peuvent passer la porte du commissariat et signer les papiers pour dire que c'est bon, j'ai porté ma plainte. Pour le changement des mentalités, c'est mort. Pour les flics, mais c'est aussi mort pour la société, parce qu'il y a un état de fait, c'est que la phrase que tout le monde ressort, c'est « Oui, mais si on retire aux flics leur matraque, comment ils vont faire pour maintenir l'ordre ?» ça, c'est... Il y a le mec qui... Le micro. Donc, je vais juste clôturer là, et parce que c'est vrai que je parle beaucoup, mais voilà, il y a cette réalité-là, en fait. Les gens ne se rendent pas compte que... Moi, perso, vous êtes face à un mec qui pense qu'abolir la police, c'est le minimum. Je pense qu'on n'a pas besoin de police. Après, c'est un peu radical... Et si vous voulez, on en discute près du stand. Mais vous parlez à un mec comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent même pas entendre le fait que les flics n'ont pas besoin de taser. Et ça, c'est une réalité aussi.
Il y avait une question quelque part par là. Mais je pense que c'était là en premier, puis ici, puis là-bas. Ah, ok.
Bonjour. C'est pas une question, mais c'est une réaction en fait. Ce qu'il vient de dire Moudou et mes camarades ici sur la répression policière sur les sans-papiers, en fait, comme on vient d'entendre, on est le bas de chaîne de la société et on reçoit blindés. Par exemple, les contrôleurs de cible accompagnés par des flics, ça c'est une violence parce que tu es contrôlé parce que tu es un arabe ou tu es un noir, tout simplement, même si tu as ton ticket. Il y a un flic qui vient te dire carte d'identité. On avait beaucoup de camarades qui étaient expulsés juste par ça. Pour moi, la violence policière, il y a des étapes. Il y a des étapes, par exemple, t'es contrôlé pacifiquement, il n'y a pas de rapport de force. Mais des fois, au parc Maximilien, il y a des rafles. Moi, j'étais dans un débat avec des politiciens dernièrement, avant les élections. Il y a un monsieur de MR qui a dit que le mot rafle, c'est pas correct. C'est juste des contrôles, simples contrôles au parc Maximilien. Désolé, c'est pas vrai parce qu'il y a des dizaines de gens qui viennent au parc tous les soirs et les flics, ils viennent, ils font des descentes et c'est forcé. Et on a vu beaucoup de gens qui soutiennent les mouvements de sans-papiers qui viennent filmer et ça était forcé. Il y a des gens qui étaient tabassés, on a vu ça par vidéo. On a vu pas mal de rapports de force des flics qui utilisent c'est des trucs des fois inutiles. Mais il utilise vraiment la force pour ça. Moi, je me rappelle, une fois, peut-être Medou, il va me corriger, on était en train de déménager d'un squat à l'autre. On était accueillis par des flics. Ils ont tiré sur des mecs avec des enfants. Ils ont tiré avec des balles en caoutchouc. Et ils n'avaient pas de brassard. Et voilà, il y a des choses que nous, on vit tous les jours, que, comme on a parlé au début, les médias, ils ignorent totalement notre existence chez nous. C'est vraiment, on est les invisibles. On vit dans la société, on cotise dans l'économie, mais on est vraiment le bas de la chaîne. Comme Modou, il a cité, il faut plus que des protections juste par des associations ou quoi. Il y a maintenant, dernièrement, à Liège, un mec qu'il m'a refusé de lui donner son titre de séjour. Il s'est fait brûler. Je pense qu'il est mort. Il y a des gens qui se suicident dans les centres fermés. Ça, c'est une autre forme de violence quand tu arrêtes quelqu'un qui a juste quitter son pays parce qu'il est pauvre ou parce qu'il a fui la guerre, et tu l'arrêtes d'une façon forcée, tu le mets dans un centre fermé. Et les centres fermés, c'est un autre sujet, on peut parler pendant des heures ce qui se passe là-dedans, et des gens qui s'y suicident à l'intérieur. Encore un autre niveau de violence, quand on va l'expulser dans l'avion, il y a des trucs forcés qu'on peut même donner au mec des trucs qui le calment, ou pendant l'avion, s'il y a un passager qui va se relever, on va criminaliser ce monsieur, on dit non, tu dois t'asseoir, tu dois nous laisser faire. Et c'est ça que je veux dire, mais c'est la violence peut-être de l'État aussi. Ouais. Voilà, merci.
Merci. Oui, il y avait une question là-bas, il me semble.
Alors, bonjour à tous. Je suis CRS français, donc ça fait 2 ans que je suis dans la police. Donc, je viens un petit peu à ce débat pour défendre ma paroisse aussi, parce que je trouve que c'est un peu trop caricatural de dire que tous les pousselissiers sont...
Alors on va laisser monsieur le CRS parler un petit peu, non, pas mais trop, mais on l'écoute un peu quand même.
Je respecte vos choix, mais je voulais vous dire que tous les policiers ne sont pas racistes. Moi, je tiens mon métier à cœur, je respecte les gens. Ça fait 25 week-ends que je travaille sur les manifestations de Gilets jaunes, et personnellement, je ne m'amuse pas à matraquer les gens, comme on peut le dire dans les médias. Ou... Moi, je suis très humain, je veux dire, j'ai pas de... Ça peut paraître... Mais pour défendre l'État, l'ordre républicain, tout ça. Donc ça c'est des valeurs peut-être dont vous n'êtes pas attaché. Mais moi, personnellement, je trouve que sans ordre républicain, entre guillemets, bah, c'est l'anarchie. Je veux dire, si on laisse faire tout le monde... C'est
Merci.
Je suis tout... Non, c'est pas fini.
Pardon.
Je voulais dire... Après, voilà, vous pensez ce que vous voulez. Mais sachez que les violences, c'est des deux côtés. Nous, quand on se prend des pavés, des bombes artisanales, tout ça, il faut comprendre que certains collègues ont du mal à garder leur sang-froid. Moi, personnellement, ça va. Je veux dire, j'ai rien contre les gens. Je comprends les revendications. Mais moi, je tenais à vous faire part du fait qu'il y a une partie des policiers quand même qui sont humains et qui respectent, que ce soit sur un contrôle d'identité ou sur des interpellations, des manifestations ou autre chose. Il y a quand même une partie des policiers, faut pas stigmatiser, faut pas dire que toute la police est raciste, faut que vous compreniez tous qu'il y a quand même une partie qui est quand même humaine.
Il a raison.
Moi je fais partie des personnes humaines, on va dire, et voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté.
Merci. Alors je donne directement la parole. Tu veux commencer?
Okay. En fait, je remercie monsieur le policier de votre intervention, mais c'est juste que je voulais dire une chose, parce que récemment on a vu ce qui s'est passé au Panthéon, et les policiers se sont permis de prendre des selfies sur des personnes qui étaient couchées par terre. On ne savait pas s'ils pouvaient se relever ou pas, parce qu'ils étaient quasiment abattus. Et même si vous n'en faites pas partie, vous ne le dénoncez pas et vous ne dites pas non, arrêtez ce que vous faites, je pense que là vous devenez un complice. Et du moment que vous êtes complice de vos frères, vos collègues, je pense qu'on est obligé de vous mettre dans le même sac. Ce que j'avais à rajouter.
Ouais, moi aussi, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. C'était que, ok, ouais, vous avez raison, ça se trouve, il y a des flics gentils. Mais le problème est qu'au final, on s'en bat les couilles en fait, parce que ça change pas le statu quo. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des flics qui sont gentils, mais en attendant, quand il y a un de leurs collègues qui va tuer un bébé de 2 ans, ils se taisent. Et ils acceptent ça et ils font tourner la machine en fait. Et c'est ça qui est problématique en fait. C'est pas le fait que les flics soient gentils, qu'il y a des flics de proximité qui sont proches de leur communauté. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que ces personnes-là qui font un travail potentiellement, je sais pas, moi j'en ai jamais vu, mais qui font un travail qu'on peut dire respectable, ces personnes-là se taisent quand il y a des abus. Et ça c'est problématique. C'est ça qu'on doit mettre en évidence.
Merci. Oui, il me semble que c'était là-bas dans le fond. Oui.
Merci. Il y a un sujet sous-jacent que vous n'avez pas
évoqué. Rapprochez
ouais.
Le micro.
Ah, on entend mieux ?
Oui.
Ça marche. Il y a un sujet qui était sous-jacent. On parle de violences, c'est souvent physique. Il y a aussi des violences psychologiques. à un policier même de proximité qui va faire son taf, ça veut dire contrôle à répétition, c'est une violence psychologique. Je ne l'avais pas compris quand j'étais jeune, je faisais contrôler parce que je viens de quartier. On me contrôle, pour moi c'était normal, parce qu'on me contrôlait aussi mes potes à côté, on contrôlait les quatre quartiers à côté, c'était normal. Quand je me suis rendu compte que c'était juste les jeunes de banlieue qu'on contrôlait, dans notre cerveau ça commençait à tilter. On s'est dit, ça veut dire quoi? On s'est fait exclure de la population, qu'on marche à deux niveaux, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont rejetées, qu'on n'est pas des citoyens comme les autres, ça veut dire quoi? Donc on s'est posé la question aussi, comment mettre en place un système qui ne nous rejette pas? Parce qu'un contrôle, la répétition, une violence, c'est une rejet de la personne. C'est mettre des populations un peu à l'écart. J'ai connu, moi en France, une police de proximité avec les grands frères qui faisaient des médiations. Ce système a été rejeté par Sarkozy. Et maintenant, en fait, c'est juste des CRS qui passent, qui font entre guillemets leur mission, des fois se trompent, largement souvent se trompent, et viennent. Ça nous fait penser quoi? Qu'on est un autre pays, c'est une intervention militaire. Maintenant, quelle est la solution? Est-ce que ce serait revenir comme avant, avoir des médiateurs entre guillemets culturels qui vont faire des ponts entre les banlieues et les centres, je ne sais pas comment définir, et avoir une police de proximité? Quelle est votre réflexion là-dessus?
En gros, moi, c'est exactement ce que je pense. C'est que, pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin de police? Parce que, en fait, c'est un travail que la communauté peut faire elle-même. Mais en fait, ce qui est là, ce qui me gêne, c'est que je parle beaucoup trop et que je vais juste fermer ma gueule et je vais laisser mes collègues.
Aude, oui, moi je veux bien répondre, mais je suis pas certaine d'avoir vraiment bien compris la question. Donc la question, c'est de savoir quel est notre avis sur une police de proximité. Est-ce que vous pouvez juste ou c'était juste ça la question?
Avec des médiateurs culturels.
Les médiateurs culturels.
Entre guillemets.
Ah ouais. Solution, j'ai pas de solution sur la question, désolée. S'il y en avait une qui était accessible à la Ligue des droits humains, elle serait accessible à n'importe qui. Alors, une position par rapport à cela, de manière générale, on n'a pas forcément une position sur la question. Après, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a des polices de proximité qui sont mises en place dans des communes là, à Bruxelles et qui sont censées justement avoir une approche plutôt chouette avec notamment les jeunes. De ce qu'on observe et de certains collectifs et de jeunes dans des AMO qui ont pris contact avec la Ligue, c'est que ces polices de proximité, elles font quand même assez fort des dégâts aussi. Elles ont justement plus, elles sont censées rentrer en contact, créer des liens avec les jeunes, établir de la confiance, une confiance mutuelle, etc. Et en réalité, ce qui est observé, c'est clairement du harcèlement policier accru et encore plus de ce que la police locale faisait au départ. Donc, c'est des policiers qui viennent d'ailleurs, qui connaissent pas les réalités et qui sont censés faire du travail de proximité sur des réalités qu'ils n'ont pas appréhendées, qu'ils connaissent pas, qu'ils comprennent pas. Et donc, du coup, on est tout de suite dans un rapport de force. Donc voilà, si je pense notamment à la brigade Unéus à Saint-Gilles, qui a quand même un peu fait parler d'elle, notamment parce que des mamans, des jeunes sont allés trouver, là en l'occurrence c'était tous des mineurs, c'est effectivement les mamans qui sont bougées, qui sont allées voir le délégué général aux droits de l'enfant, qui sont venues voir la Ligue. Le délégué général aux droits de l'enfant a fait un rapport qu'il a accepté de ne pas rendre public tout de suite, mais uniquement pour discuter avec le bourgmestre, parce que le bourgmestre, évidemment, c'est le chef de la police. Du coup, à un moment donné, il y a une figure politique qui doit rendre des comptes. Et voilà, dialogue vraiment compliqué, quoi, sur une commune qu'on aurait pu espérer plus ou moins progressiste sur ces questions-là, pas tellement, quoi. Donc voilà. Visiblement, il y a un peu le même dispositif qui est en place sur Anderlecht et des contacts qu'on a avec des jeunes, ça se passe pas forcément mieux qu'à Saint-Gilles. Donc voilà. Après, je pense pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions de médiateurs culturels dans ces dispositifs-là. Hein. Je suis pas sûre que la culture soit le premier focus.
Merci. Oui.
moi je vais parler plus de manière pragmatique. En tant que blanche, avec donc les fameux privilèges dont tout le monde parle, il y a une chose très simple, il y a une chose possible, c'est porter plainte en tant que blanche. Quand on est témoin de racisme, quand on est témoin de violence, c'est tout à fait possible de porter plainte. Et quand on porte plainte, on va recevoir plus ou moins la même lettre copiée-collée. Nous avons fait en sorte que nous avons enquêté auprès des personnes qui ont été, voilà, des inspecteurs qui ont été accusés d'eux. Les phrases sont toujours les mêmes quand on porte plainte fréquemment contre la police, etc. Simplement, ça ajoute aux chiffres des plaintes contre la police, ça ajoute, ça fait grossir les chiffres. Parce que les plaintes de Noirs et d'Arabes, on le sait, elles sont déconsidérées. Je ne dis pas que les plaintes de Blancs sont mieux considérées, mais elles sont prises aussi en compte. Et ce n'est pas rien que socialement, localement, visiblement, ces plaintes-là soient aussi regardées, considérées. Et aussi parler qu'on a porté plainte. Quand on porte plainte en tant que Blanc, on le dit, j'ai été, non pas victime évidemment, mais de témoin de racisme. Et donc je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai noté, j'étais à la police, j'ai fait tout ce tact-là. C'est hyper important, d'abord pour soi, c'est vraiment une question d'abord intime, et après c'est une question politique. La deuxième chose, c'est connaître les droits contre la police. Nous, on a des droits. Nous, je dis ce blanc systémique. Ces blancs systémiques, quand on filme la police, on se prend pas le premier coup de matraque, on se prend le troisième ou le quatrième en général. C'est important de le savoir. Les gilets jaunes aujourd'hui qui se font matraquer, inoculer, etc., ça met ça en évidence qu'à un moment, les blancs aussi sont touchés. Et bien, si on n'est pas touché en premier, autant faire attention à qui est touché en premier et prendre cette parole-là. C'est une sacrée parole malgré tout. Voilà, c'est pragmatique et porter plainte, ça se fait. Et quand on ne sait pas aller dans le commissariat, il est possible en effet de se faire accompagner par une personne de confiance. Les personnes de confiance, c'est votre droit de base. Vous pouvez y aller avec votre mère, votre grand-mère si vous voulez, mais vous pouvez y aller avec quelqu'un qui ne doit pas décliner son identité. Ça, c'est hyper important. Donc la Ligue des droits humains, par exemple, les gens d'Obspol, par exemple, font ça. Moi, j'y suis allée 3 fois avec des personnes différentes, on ne leur pose pas de questions. Mais d'avoir quelqu'un à côté de soi qui peut trianguler en termes de pression par le flic qui ne veut pas que vous portiez plainte contre les flics, c'est hyper intéressant à avoir. C'est un sacré soutien. On sort de là en se disant, putain, est-ce que j'ai halluciné? Est-ce que j'ai bien tout dit ce que je voulais dire? Donc ça, c'est tout à fait possible. Et ça se fait très, très, très rapidement aussi. Encore une fois, on ne connaît pas les portées, etc. Mais les chiffres qui gonflent sur des plaintes, c'est important. Il faut que ça gonfle. Il faut qu'on soit vraiment tous ensemble sur ce point-là. Voilà, c'était cette petite parole pragmatique.
Merci. En fait, je vais être honnête, je ne sais pas quelle heure il est. Donc, je ne sais pas si on a encore du temps pour une ou deux questions. Quelle heure est-il? Il est 4h. Ah, ben en fait, bon, une dernière question, du coup, et puis après, on clôture. Tu avais une question? Tu voulais dire un truc? Ok.
Moi, c'est une réaction par rapport à ce qui s'est passé avec le monsieur qui travaille pour la police. J'étais surprise par la répression, mais par tout ce qui s'est pris un peu dans la figure, parce qu'il a aussi le droit de s'exprimer, d'après moi. Et je me demande si, pour cette lutte-là, c'est pas un peu comme la lutte féministe, où les hommes font partie de la solution qu'on peut, nous, en tant que femmes, mettre au point pour que ça change. Est-ce que la police ne peut pas aussi faire partie de la solution dans ce qui concerne les violences policières? Parce qu'avant de la supprimer, il y aura encore des années et des années de violence, je pense. Donc pourquoi ne pas l'ancrer dans notre solution?
Donc, on m'entend? Ouais. Donc moi, je suis également un représentant de la nouvelle voie anticoloniale. J'ai décidé de ne pas participer au débat pour des raisons X et Y, mais bon. J'aimerais simplement revenir sur l'intervention qui a été faite par monsieur. Ici, et essayer d'apporter des éléments de réponse, en tout cas votre intervention également, sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour tenter d'opérer à une reconfiguration structurelle de la pensée par rapport à la police. Moi, je pense qu'en reprenant des exemples concrets qui ont été établis, notamment aux États-Unis, de ce que les Black Panthers ont mis en place ce qu'on appelle en français des régulations sociales communautaires ou des community policing, c'est-à-dire des médiations opérantes qui sont mises en place par les communautés ciblées par ces violences policières et qui vont être régies par des médiateurs de tout type, C'est-à-dire que ces médiateurs peuvent passer par le biais culturel pour opérer à une socialisation de ces jeunes vis-à-vis de la violence policière, pour tenter de leur faire comprendre que la violence policière, ce n'est pas quelque chose qui doit s'inscrire dans un rapport interpersonnel aux policiers. C'est une domination vaste qui fait partie d'un appareil structurant, et comprendre la violence policière dans sa dynamique structurante est pour nous fondamental. C'est pour ça que entretenir ou s'entretenir avec un policier de manière interpersonnelle, ça n'a pas vocation à véritablement reconfigurer une réalité opérante dans la mesure où on ne peut pas avoir d'influence directe avec la structure policière. Parler avec monsieur, ça peut effectivement avoir un effet sur lui en tant que policier. Ce débat peut effectivement opérer à une forme de dissonance cognitive pour lui. Mais à une échelle structurante, c'est pas monsieur qui va du jour au lendemain dire « Ah, mais les violences policières, elles n'existent plus ». Non, les violences policières sont opérantes parce qu'elles ont un objectif particulier. Elles construisent tout un pan de la population en tant que vecteur intérieur d'une menace globale. Les quartiers populaires sont pensés en tant qu'ennemis intérieurs. Il y a une généalogie qui construit l'ennemi intérieur. Et les quartiers populaires et les jeunes issus de ces quartiers populaires sont pensés en tant qu'ennemis. Et c'est pour ça que, à mon avis, discuter avec monsieur, c'est peut-être intéressant pour lui, mais pour nous, en tant que militants, je suis désolé, ça ne sert pas à grand-chose.
Tu veux dire quelque chose? Je vois que tu...
Ouais, et qu'en fait, de répondre, et la force du slogan, pour moi, tout le monde déteste la police, qui est apparu dans le mouvement contre la loi travail en 2016 en France, la force, en fait, elle est émancipatrice dans ce slogan. Alors oui, ça a l'air violent, oui, ça a l'air... Oui, on veut ignorer le débat, on est juste des énervés dogmatiques contre la police et on est incapable de parler avec eux. Non, en fait, c'est une force émancipatrice de dire « Monsieur, on veut pas entendre votre voix, taisez-vous », c'est reconnaître que vous êtes un danger pour nous, que demain, peut-être, vous serez celui qui cassera le nez de mon pote ou quoi que ce soit. Et en fait, on vous dit « Taisez-vous », parce que là, on est en train de discuter. Et voilà, et c'est une force dans ce slogan à porter et à amener. Voilà.
Mais ce sera du coup le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants et à nos intervenantes. Et profitez bien du coup de Récit Festival. Merci.